Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 30, confinement saison 3. On peut dire qu'elle commence bien celle-là, ouais, ça sent un peu le réchauffé, ils ne savent plus très bien quoi faire, mais bon. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes et plateformes confondues. Ce soir, nous parlerons New Wave et amour au temps du sida avec It's a Sin sur Canal+, fin de Seconde Guerre mondiale et neutralité suisse de façade avec Le Prix de la Paix sur Arte, et enfin Amitié vénéneuse et couple à trois dans Losing Alice sur Apple TV.
Une Heure en Série, Xavier Le Herpeur.
Et nous aussi, nous avons notre trouple ce soir. Notre threesome, comme les anglo-saxons, bien sûr. Bon, c'est officiel de toute façon.
Complètement.
Et si je pouvais, je participerais, mais je suis obligé de mener normalement l'émission jusqu'au bout. J'ai donc nommé Ava Cahen de French Mania.
Salut, bonsoir. Salut tout le monde.
Christine Haas.
De chez elle.
Toujours partant pour un couple à trois, de toute façon. De chez elle, mais qu'elle nous prête pendant une heure. Et Benoît Lagan, le bonsoir. 5-7 de Mathilde Munoz, le vendredi matin. Et Télématin. Vous êtes prêts pour le premier débat ?
Prêt.
On sèche un peu les yeux. On a tous quand même chialé comme des madeleines devant It's a Sin, la série britannique en 5 épisodes sur Canal+, et qui débutera donc lundi 22 mars aux environs de 21h. Nous sommes au début des années 80. La pop anglaise, mélancolique et entêtante sur laquelle j'ai tant dansé, triomphe un peu partout dans le monde. Londres est à la fête avec des titres comme Fade to Grey, Kids in America et bien sûr l'hymne Small Town Boy des Pronsky Beat. Ne chantez surtout pas, s'il vous plaît.
Non, vous inquiétez pas.
Merci. La libération sexuelle est en marche et les clubs gays se multiplient. La capitale anglaise est alors un Éden sexué pour tous les garçons qui aiment les garçons et qui, dans l'anonymat de la capitale et après avoir quitté le placard où les cantonnés, la petite ville où ils avaient grandi, peuvent enfin vivre leur désir au pluriel, au grand jour. C'est dans ce contexte que débarquent Richie, Roscoe et Colin. Mais l'épidémie du sida va frapper de plein fouet les corps de ces jeunes garçons, entraver leurs amours joyeuses et tendre son voile mortifère sur une génération à jamais brisée.
Morning.
Have you seen this?
He said, she said, they said. They're always saying something.
They think it's this virus, AIDS. There are boys dying all over the world from sex.
Don't be ridiculous. That would be all over the news.
The government knows all about it and they're keeping it quiet.
Do you think there's an illness that only kills gay men? The whole thing is a pack of lies.
It's a Sin, une série signée par l'une des plus grandes plumes de la télévision britannique. J'ai nommé Russell T. Davis, auteur auquel on doit Queer as Folk, l'original, le retour en grâce et en grande forme du Docteur Who, n'oublions pas cela, les très explicites Cucumber et Banana, je crois que j'ai pas besoin de faire de dessin, hein. Sans oublier évidemment la flamboyante dystopie sortie l'année dernière, c'était notre première émission d'ailleurs il y a un peu plus d'un an et demi, Years and Years, dans les rôles principaux de cette série qui, encore une fois, va vous faire verser des litres de larmes salées et amères, Holly Alexander, découvert dans la série Skin, et leader du groupe pop Years and Years, qui a d'ailleurs signé une reprise de It's a Sin que je vous recommande d'écouter, beaucoup plus mélancolique, mais vous retrouverez également Omari Douglas, Lydia West et quelques guest stars, parmi lesquels Stephen Fry, Neil Patrick Harris et la géniale Kelly Oles, qui joue la mère d'un des héros, qu'on a vu dans MI5, qu'on a vu dans Ashes to Ashes et qu'on a vu entre autres dans Bodyguard, qui est vraiment une actrice extraordinaire. Très rapidement, la presse, Les Inrock, parle d'une série qui parvient à mêler avec maestria, élan vital et ignorance meurtrière, légèreté et honte. Je trouve ça très très bien résumé. Et Télérama, It's a Sin avance sur un rythme endiablé. La mort est partout, mais jamais le scénariste, donc Russell T. Davis, ne sait au pathos. Ava, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu cette époque, mais
je suis née dans les années 80, mais ouais.
Oui, mais vous étiez vraiment toute petite. It's a Sin, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah écoutez, vous l'avez dit, moi j'ai dû sortir les mouchoirs à la fin de l'épisode 1, dès que j'ai entendu la première note de Small Town Boy, tume qui résonnait d'ailleurs dans 120 battements par minute aussi, de Robin Campillo.
Alors au-delà,
ouais, tout à fait, de Robotini. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, au-delà du pouvoir lacrymal évidemment de cette série et de son extraordinaire BO Kemp, on l'a rappelé, hein, It's a Sin c'est également un hit des Pet Shop Boys, et ben c'est une très 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 grande série comme l'été Queer as Folk, comme l'été Years and Years. Elle est remarquablement écrite, elle est remarquablement interprétée et mise en scène. C'est fluide, c'est vibrant, on plonge tout de suite. Hein. Londres, les années 80, les costumes, les chambres étudiantes, les bars qui nous manquent tant. On s'attache à tous les personnages, Richie, Roscoe, Colin, Jill et les autres. On a l'impression hein, vraiment d'être des leurs, de faire partie de cette communauté. On voit d'ailleurs comment chacun lutte à sa façon contre le conservatisme de l'époque, parfois même le conservatisme de sa propre famille, comment ils font corps commun aussi. Ils sont toutes et tous, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À chaque épisode, on rit avec eux, on pleure avec eux, on chante avec eux. On a envie de se saluer d'un « là ». C'est, voilà, c'est le salut de reconnaissance qu'ils ont inventé.
Les auditeurs comprendront voilà. Quand ils verront la série.
On est dans la même pièce qu'eux quand ils jouissent et ce n'est jamais vulgaire. On est là quand ils se disent « je t'aime » et ce n'est pas vulgaire non plus. Et puis on a le vertige, forcément, quand la bande est décimée par ce virus. Ça nous détruit, nous aussi, parce que la série raconte, vous l'avez dit, c'est aussi la manière voilà, dont la vérité a été tue, le silence de mort dans les années 80 sur le VIH, la désinformation, les préjugés, l'homophobie. Voilà, faut rappeler qu'au Royaume-Uni,
l'incarcération des malades.
Absolument, voilà, justement, au début de l'épidémie, les malades étaient littéralement, enfermés dans des chambres, fermées à clé, leur repas laissé à la porte, traités comme des pestiférés. Donc voilà, on sent bien dans la série, je trouve, cette chape qui mure toute communication jusqu'à la communauté homo elle-même. C'est sublime. C'est vraiment une très très grande série et elle fait un bien fou aussi. Elle compte dans l'histoire de la télévision.
Je bois vos paroles. C'est formidablement écrit. Vous l'avez souligné. Effectivement, c'est une grande leçon d'écriture scénaristique et sériel. Benoît.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Vous avez presque tout dit. Il y a une telle maîtrise, en fait, des émotions, de la psychologie des personnages, un sens aigu de la narration qui font qu'on rentre effectivement directement dans l'histoire et directement avec ces personnages. Et c'est à tel point, du coup, ça m'agace. Ça m'agace que Russell T. Davis ne fasse pas des séries plus longues. Parce que je me dis que 5 épisodes, c'est bien trop court d'être avec. Ils sont tellement, c'est tellement fort et c'est tellement brillant qu'on a envie de les suivre, Richie, Roscoe, Colin, longtemps dans leur vie avec leurs amis et se dire là beaucoup plus souvent que 5 fois malheureusement.
Alors, on va le dire, c'est leur signe de reconnaissance. Oui, voilà.
Non, parce que c'est tout
le problème. De se dire bonjour.
C'est tout le problème des séries de Russell T. Davis, c'est qu'elles sont tellement chouettes qu'elles sont beaucoup trop courtes. Et là, moi, ce que j'ai aimé en particulier, c'est alors les clins d'œil, bien évidemment, aussi à d'autres séries de Russell T. Davis. Il y a un clin d'œil à Doctor Who, par exemple, qui est assez.
Il a dénaturé la surprise.
Mais non, mais j'ai dit que ça avait un clin d'œil. Voilà, c'est tout. Il y a un joli portrait aussi tout en nuance donc de ces trois amis là mais aussi de leur famille et qui nous reprennent toujours à rebrousse-poil, c'est-à-dire que on croit penser quelque chose d'un personnage. Il y a par exemple un des personnages, le père et la mère, on a un avis tout tranché sur la mère, tout tranché sur le père, et la série réussit brillamment à tout bousculer lors d'un épisode. La force du récit, c'est ce que disait Ava très bien, c'est de nous raconter aussi cette époque où finalement on ne veut pas voir la maladie, personne ne veut y croire de tous les côtés. Et tout le monde se trompe. Et c'est ça que je trouve fabuleusement bien écrit, de façon, enfin, en plus, sans manichéisme aucun, et sans que ça donne des leçons, ce qui aurait pu être aussi un des accidents, et ce n'est pas le cas. Donc vraiment, grande et belle série.
Je suis tellement d'accord. Christine, vous partagez avec moi, malheureusement, d'avoir été contemporaine de cette époque.
J'ai passé tout le dernier épisode à pleurer. C'est vrai que l'écriture de Russell T. Davis est chaleureuse, pleine d'humanité, pleine d'humour absurde. La série pulse, hein, comme ça, sur une musique new wave. Elle est profonde, mais jamais pesante. Elle est ni plombée par le sujet, ni par l'ambiance qui est à la fois furieuse, fêtarde, bouleversante, hilarante et politique. Il faut rappeler que Margaret Thatcher est alors aux manettes et la série montre bien l'homophobie rampante, l'indifférence, l'hostilité du monde extérieur face aux milliers de vies perdues. Il y a une honnêteté aussi par rapport à la manière dont les personnages intègrent cette haine eux-mêmes dans les premiers mois un peu confus de cette maladie, se revendiquent souvent comme étant clean, c'est-à-dire propres, par opposition aux victimes de la maladie qui sont dirty, sales. Et parmi tous ces personnages délicieux imparfaits auxquels on s'attache, certains ne survivront pas. Et la série montre clairement la cruauté de certaines situations à une époque où les homosexuels vont finalement mourir seuls, abandonnés dans leur honte, persuadés qu'ils méritent même d'être malades et de mourir. Tout ça parce que leur famille leur balance tout ça, leur situation à la figure. Donc c'est une série qui est pleine d'amour, de colère envers une société homophobe qui ne s'est pas montrée à la hauteur en laissant le virus fleurir. C'est une série qui est politique, mais nuancée. Et c'est une construction très adroite, hein, aussi avec une tension qui monte pour chacun des personnages et qui s'achève sur un coup de poing à l'estomac. Donc il y a à la fois une urgence et des digressions, Progressivement, la série va passer du récit choral à Richie, hein, qui va devenir le porte-parole, le héros qui nous brise le cœur. Et c'est vrai que il y a un certain nombre de scènes extrêmement bouleversantes qu'on ne peut pas raconter, mais il y a aussi des scènes extrêmement dérangeantes. Les interrogatoires menés au sein des banques, par exemple, en vue d'emprunt, où on leur demande « Êtes-vous homosexuel ? Est-ce que vous faites l'amour avec des hommes, mais aussi avec des animaux ?» c'est l'époque des fake news absolues, des fausses infos, des rumeurs, des théories de conspiration.
Tout est vrai. Hein,
ouais. Tout est vrai, c'est absolument incroyable. Il y a une autre scène étonnante aussi, c'est ce prof de littérature qui est chargé de répertorier tous les livres évoquant l'homosexualité, chargé de les mettre de côté, qui trouve évidemment aucune mention dans Shakespeare, Tintin ou Jane Austen.
Encore Tintin. Je trouve que c'est une lecture un tout petit peu rapide.
On nage dans la condescendance du mâle hétéro à une époque où le mariage homosexuel est encore impossible. Et il y a véritablement des scènes absolument bouleversantes.
Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ajouterai juste une chose. Russell T. Davis regarde aussi la naissance d'une homosexualité prolétarienne.
Oui, tout à fait.
Jusque-là, c'est à Oxford, chez les nobles, en tout cas chez les riches. Et là, il y a vraiment une homosexualité qui vient d'en bas de l'échelle sociale. Et je trouve qu'il le montre très bien.
Et Christine, il aborde aussi la question, très intelligemment, la question de la responsabilité, un peu comme l'avait fait Cyril Collard dans Les Nuits Fauves, où certains, se sachant malades, ont continué d'avoir des relations non protégées. Et véritablement, ça, c'est fort.
Grande série, chef-d'œuvre absolu. It's a Sin, une série donc sur Canal+.
Voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombres familières. Je serai debout face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carême. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, raptures.
Je n'écrirai plus si souvent, marquis ex-marquis de Sade et Étienne Dao. Vous avez bien sûr reconnu la voix d'Étienne Dao. C'est extrait de Aurora, le nouvel album initié, hélas, avant le suicide de 2019 de Philippe Pascal, le chanteur du fameux groupe René des années 80. Ses compagnons de route ont tenu quand même à concrétiser cet album qui n'était encore qu'esquisse. Et ils ont bien fait pour nous qui avons connu aussi le marquis de Sade. Bah, le résultat est intact. Une cristallisation musicale de leur travail de plus de 40 ans quand même. Et porté sur ce titre uniquement par la voix éternellement séductrice et enjôleuse d'Étienne Dao.
France Inter. Une heure en série.
Petit conseil littéraire qui a trait à la série dont nous venons de parler avec tous des trémolos dans la voix. Et le conseil littéraire, c'est Mes animaux sauvages de Kevin Bentley aux éditions Philippe Ray. Ce roman qui tient avant tout du journal intime, hein, je le signale, débute en 1977 pour s'achever 20 ans plus tard. Kevin, jeune Texan, s'échappe de cet état rien réactionnaire pour enfin vivre sa vie de gay flamboyant dans les rues de San Francisco. Et c'est peu dire s'il y trouve sa place. Dans les rues de Castro, les beaux garçons pullulent, et si on me permet cet effroyable mot d'humour, oui, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. J'ai honte. Ok, pas politiquement correct, mais c'est l'époque extravagante des années 80 qui veut cela. Kevin aime, couche, multiplie les aventures, et n'étant pas d'une nature très romanesque, ni très monogame quand même. Il préfère les rencontres physiques, furtives, anonymes parfois. Les corps exultent et le désir enfin libéré en marche, des premières marches revendicatrices ne demande qu'à satisfaire son besoin d'épiderme et d'entrejambes. Une époque précidale, libérée et délivrée de toute forme de culpabilité dans ce paradis pour garçons. Perdu, mais fier de l'être. Hélas, la maladie débarque et avec elle son lot de tragédies. Les amants de Kevin vont partir, emportés par ce fléau qui fait ses ravages dans l'indifférence d'une Amérique puritaine. C'est Reagan qui est au pouvoir, ça ne vaut pas mieux que Margaret Thatcher. Cette Amérique qui voit dans le sida un signe de la vengeance de Dieu contre tous ses invertis. Le journal de Kevin Bentley se fait évidemment plus sombre, tout en restant assez déculotté. Si on peut me permettre encore ce très mauvais jeu de mots. Et cela donne des pages absolument magnifiques, en forme d'hommage bouleversant aux disparus, taraudés par l'oubli. Il y a une phrase absolument magnifique où il s'en veut d'avoir oublié le nom de ce garçon avec lequel il est resté 3 mois et qui malheureusement est perdu. C'est superbe. Mes animaux sauvages de Kevin Bentley aux éditions Philippe Ray. C'est très cru. Hein. Deuxième débat, moins cru, hein, quand même, tout ça. Ou alors le lait cru, c'est très mauvais. C'est incroyablement nul. Tout ça pour parler de la Suisse et du prix de la paix, série helvétique en 6 épisodes, diffusée sur la chaîne donc Arte les 25 mars et 1er avril, mais également disponible sur Arte TV jusqu'au 30 avril. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Suisse, charmant petit bucolique, ayant réussi à préserver sa neutralité durant le conflit. Mais neutralité ne signifie pas pour autant un rejet des idéologies fascistes qui ont traversé l'Europe. C'est ce que découvrent les 3 héros de cette saga à la fois familiale, romanesque et politique. Le premier travaille pour le bureau du procureur général et traque les nazis qui se sont réfugiés fort souvent avec la complicité des autorités helvétiques au pays du chocolat. Son frère, héritier par alliance d'une entreprise de textile, cherche à moderniser celle-ci et pour cela va devoir faire appel à un scientifique allemand dont le passé pourrait s'avérer beaucoup plus trouble qu'en apparence. Quant à sa fiancée, elle travaille à l'accueil de jeunes enfants et adolescents rescapés des camps de la mort. Par leur intermédiaire, elle découvre l'horreur d'une réalité que bon nombre de ses concitoyens dénient encore.
Bon papa, donnez-moi ma chance, je suis prêt. C'est ici même que nous pourrions ouvrir la première usine de textiles synthétiques ensemble.
Un très bon ami m'a parlé d'un scientifique de Dresde.
Un Allemand ?
Il dirigeait le laboratoire principal d'une grande entreprise.
Je peux vous donner des noms, mais je veux la garantie qu'on ne m'expulsera pas.
Nous ne négocions pas avec les nazis. Je m'intéresse de près au même homme que vous.
Elsie, tu peux être très fière de ton garçon. De tes deux garçons.
Le prix de la paix, une série de Petra Biondina Volpe, réalisatrice au cinéma de Les Conquérantes sur le droit de vote des femmes en Suisse, une série avec Annina Walt, Max Huberer et Dimitri Stapfer. Je vais juste citer pour la presse, Le Temps, qui est un quotidien suisse, et qui a écrit: dans la perpétuelle polémique concernant l'attitude de la Suisse pendant et après 39-45, le prix de la paix fait figure de nouvelle brique dans la mare. Benoît, vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Oui, plutôt, je trouve que c'est une série extrêmement enthousiasmante, déjà sur le papier. Pour nous, Français, déjà, on voit peu de séries suisses. Donc, quand on en a une, je pense qu'il faut y aller, déjà, pour voir par curiosité. Ensuite, parce que la thématique de l'immédiate après-guerre est rarement travaillée, en fait. On parle souvent du conflit, du temps du conflit. On parle souvent de qu'ont fait les criminels nazis quelques années plus tard, quand on les retrouve, qu'il faut faire des procès. On en parlait, par exemple.
Qui était le sujet de Body Collector, dont on en parlait la semaine dernière.
Et là, donc, de parler de l'immédiate après-guerre, ça, je trouve ça intéressant. La série ne réinvente rien en termes de mise en scène, il faut le dire tout de suite. On est dans un grand classicisme. Et à la fois, c'est peut-être toute sa force. Parce que derrière cette grande série populaire, on nous raconte quelque chose pertinent sur la neutralité. Est-ce que quand on est neutre, on est vraiment neutre? Et je pense que la série y répond, et d'où le fameux pavé dans la mare, c'est-à-dire qu'elle y répond, mais là encore, comme la précédente série dont on a parlé aujourd'hui, sans donner de leçons, et en assumant complètement ses personnages, donc totalement romancés. La série passe de moments très joyeux, une scène de mariage, une scène dans un bar, et puis, de l'autre côté, des scènes beaucoup plus dramatiques, l'arrivée effectivement des rescapés des camps de la mort.
Qui ne sont pas les bienvenus. Disons-le clairement, les institutions qui les accueillent les voient arriver quand même d'un œil un peu défiant.
Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on les accueille parce que il le faut, mais de notre côté, on ne sait pas quoi en faire. Et ce qui est vraiment intéressant avec notamment cette communauté des rescapés, c'est que la question qui émerge aussi, c'est la création de l'État d'Israël, la possibilité de partir sur une autre terre, et peut-être sur une autre terre en guerre, et tout ça est posé avec beaucoup de justice, parce qu'en plus, c'est tous des enfants et des adolescents qui sont là au cœur de ce conflit et qui, du coup, ont un regard enfantin presque sur la situation, mais tellement juste que ça en devient bouleversant. Voilà, grande série romanesque avec aussi des histoires d'amour, parce qu'il en faut dans ces sagas-là pour rendre finalement la série haletante. 6 épisodes vraiment extraordinaires.
Je suis assez d'accord avec vous. Christine ?
Ben, moi, je suis d'accord aussi. C'est vrai que la Suisse, la Suisse qui s'en était plutôt bien sortie pendant la guerre, s'en sort nettement moins bien en temps de paix. Hein, entre les réfugiés, les nazis en fuite, la population rationnée, il va falloir faire des compromis. Et alors que la guerre mondiale s'achève, notre guerre à nous commence maintenant, déclare un représentant du gouvernement. On est véritablement dans un docu-soap où la paix et le calme ne sont qu'une façade qui a été achetée avec le sang des victimes et qui ignore le passé criminel d'anciens nazis. Donc, ce contexte historique de l'après-guerre est assez passionnant, il n'a jamais été évoqué jusqu'ici, c'est une matière par nature assez explosive, et quand on entend un jeune déporté juif déclarer « les Suisses, vous êtes comme eux », sous-entendu des nazis, on comprend que la scénariste Petra Wolpe va dire des choses à travers cette saga, et où le cadre historique va croiser des trajectoires personnelles, et que les questions morales vont être évoquées dans le contexte suisse. Certains restent fidèles à leur sens de l'éthique, d'autres se rebellent, d'autres collaborent avec le diable pour des raisons culturelles, politique, commerciale, mais chaque personnage va avoir sa facette sombre, ses secrets, ses désirs cachés, et va se trouver empêtré dans les compromissions passées ou présentes du pays. Il est bien question du prix à payer pour ce petit pays neutre, avec ses trahisons, ses profits, prêt à bien des manœuvres pour se repositionner sur la carte d'une Europe ravagée. C'est le portrait d'une génération, véritablement, sur la façon dont elle a perdu son innocence, sur sa volonté de changement aussi, qui a joué un rôle essentiel dans la mise en place de la Suisse d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un récit basé sur un rapport d'une commission indépendante qui a été fait il y a une vingtaine d'années, hein, le rapport Berger, qui a examiné précisément le rôle de la Suisse durant et après la guerre. Et donc la Suisse s'oblige à revoir son passé, ce qui est salutaire mais difficile, car le pays s'est construit, il faut le dire aussi, sur une mythologie de résistance, a longtemps été convaincu qu'ils étaient les meilleurs que le reste du monde, qu'ils avaient fait leur possible. Sauf que, faut le dire aussi, à la fin de la guerre, les Suisses n'avaient pas exprimé leur joie. Hein, et qu'en 1995, le président de la Confédération avait dû même s'excuser pour avoir demandé au Troisième Reich d'estampiller un tampon J sur le passeport des Juifs allemands et autrichiens afin que les douaniers les reconnaissent et les plus souvent les refoulent vers les forces de l'Axe. Ce qu'on voit nettement à travers le traumatisme du fils aîné Egon, qui va essayer donc de réparer en devenant un chasseur de nazis. Donc c'est véritablement une page d'histoire peu glorieuse pour un pays qui évoque les traumatismes de la guerre et la difficulté à régler les comptes, faire payer les crimes aux criminels. Mais il est aussi question de pardon. Il faut regarder de l'avant et bon, on est en Suisse, mais la thématique est plutôt universelle. Hein. Les questions de responsabilité et du choix entre justice et profit.
Absolument. Très, très belle conclusion. Ava.
Bah, je rejoins complètement mes camarades et tout a été...
C'est une bonne surprise. Ouais, hein. Ouais, c'est classique, c'est on est bien d'accord. Oui, hein, voilà. Charpenté, c'est pas audacieux en termes de mise en scène, mais en termes d'écriture, vraiment... Tous les rouages romanesques sociaux, parce qu'il y a aussi l'industrie textile, enfin, il y a plein de choses, sont extrêmement bien menées.
Non, c'est ça, ça se regarde vraiment avec intérêt, sans qu'on soit totalement, effectivement, bousculé par le programme. Tu l'as dit, Benoît, c'est une série relativement classique dans sa forme, une fresque chorale qui met en lumière, donc voilà, tout ce pan méconnu de l'histoire, et ça, c'est absolument passionnant, et qui le fait à travers, on l'a dit, le destin de trois personnages. Et moi, ces trois personnages m'ont vraiment intéressé. Donc, on a Johan qui vient d'épouser Clara, qui est un jeune entrepreneur ambitieux qui va vite prendre les commandes de l'entreprise familiale et lancer sa révolution qui est celle du nylon, de la fibre synthétique. Mais pour cela, c'est ce que tu disais Christine, il va devoir renoncer à certains de ses principes. On entend d'ailleurs son beau-père lui dire, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir se concentrer sur l'essentiel, si c'est pas un message hyper clair. Donc voilà, la série porte effectivement bien son nom puisqu'on va voir épisode après épisode ce qu'il en coûte à la Suisse, ce qu'il en coûte aux personnages. Cette guerre dont on parle, dont tu as cité très justement la réplique, la guerre pour nous commence maintenant, et ben cette guerre, c'est une guerre économique, c'est une guerre idéologique, c'est une guerre entre les générations, c'est une guerre entre les classes, évidemment, sociales. Dans le premier épisode, on entend un soldat américain qui dit de la Suisse, c'est le paradis. Mais nous, spectateurs, voilà, on découvre très vite ce qui se cache au-delà des paysages bucoliques de la région et les bonnes manières des habitants. Voilà, Johan, Clara et Egon incarnent des idéaux et des aspirations, les aspirations de la jeune génération. Ils font face au conservatisme des pères et au déni des mères. Celle de Clara, par exemple, a des préjugés antisémites extrêmement collants. Et puis quant à Egon, tu en as parlé, Christine, il traque un ancien nazi, mais on lui met constamment des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est une série historique, mélodramatique, prenante. Il y a un tout petit peu trop de musique à mon goût, mais c'est vraiment du détail, parce que globalement, c'est de bonne facture, et puis c'est plutôt bien joué.
Et ce que je trouve juste intéressant pour dire qu'on n'est pas dans le manichéisme, non. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce personnage qui a son entreprise et qui va faire appel à un savant allemand, donc possiblement nazi, pour basculer vers le nylon. Il le fait aussi pour sauver des emplois. Absolument. Et donc on sent bien que on lui demande de choisir entre faire perdre des emplois ou donc c'est vraiment toute la série à cet endroit-là, je trouve, de questionnement. Ou même nous, en tant que téléspectateurs, on se pose sans cesse la question, mais qu'est-ce qu'on aurait fait ?
Il y a quand même un moment effroyable où la Suisse organise sa propre propagande, pardon, ouais. En photographiant les enfants avant, en tenue de prisonnier de Buchenwald, ouais. Et ouais. Après, dans la même pièce, et c'est saisissant et particulièrement inquiétant. On vous la recommande, c'est pas génial en termes de mise en scène, mais c'est formidablement écrit, le prix de la paix, donc sur Arte, à partir du 25 et du 1er avril, mais sinon vous pouvez évidemment aller le voir sur le site de la chaîne.
Du bist die ganze Welt.
ganze Welt, le monde entier, mon monde entier. Sophie Hunger, extrait de Mad Miles, le cinquième album Nomade, enregistré entre San Francisco et Bruxelles par cette chanteuse suisse installée à Berlin. Un titre planant et rocailleux, évanescent et mélancolique qui fait magnifiquement résonner la gutturale sensualité de la belle langue allemande.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité est racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et ce soir, en direct, effet miroir, décidément on ne vous refait pas, vous revenez, cher Benoît, une fois de plus sur This Is Us. Vous avez des parts dans la diffusion?
Pas du tout.
On dirait, hein?
Non, mais alors, petit rappel, This Is Us, c'est la série qui raconte depuis 5 saisons la vie d'une famille américaine des années 70 à nos jours. Et le 10e épisode de la saison 5 vient de passer cette semaine aux États-Unis. Et cette série ne cesse de nous surprendre par l'effet miroir toujours bouleversant, en fait, qu'elle nous tend. C'est pour ça peut-être que j'y reviens autant. Et en cette semaine anniversaire du premier confinement, et au moment où un tiers des Français voient leur vie à nouveau confinée, j'avais envie de vous raconter comment la série a trouvé récemment le truc pour se faire l'écho avec finesse et douceur de nos étranges conditions de vie depuis un an. Alors en novembre, lors de son retour à l'antenne en saison 5, je vous avais déjà raconté comment chez les Pearson, on avait pris acte de la situation sanitaire. Les personnages portent souvent le masque, ils ont adopté les gestes barrières. Randall, Kevin et Kate, les trois enfants Pearson, se font d'ailleurs tester régulièrement avant d'aller voir leurs parents plus âgés. Mais l'épisode diffusé aux États-Unis il y a un petit mois, sur lequel j'aimerais m'arrêter aujourd'hui, intéressant tant il raconte et met en scène avec justesse cet étrange quotidien qui est le nôtre depuis l'apparition du virus, et notamment dans nos nouvelles façons d'échanger depuis plus d'un an, dans ces interactions sociales et physique limitée.
Et cet épisode numéro 8, donc de la saison 5, disponible 24 heures après la diffusion américaine sur Canal Plus en France, et sur lequel vous vous arrêtez, a pour titre In the Room, dans
oui,
la pièce.
Car tout se passe à l'intérieur, justement, soit plusieurs huis clos. Ici, une chambre d'hôpital, là, une salle à manger, ou encore là, l'intérieur d'une voiture. Ils sont tous séparés, mais tous connectés. Rebecca et Miguel, les grands-parents, se sont installés dans le chalet familial avec leur téléphone ou leur tablette entre les mains, à défaut de pouvoir embrasser et toucher leurs enfants et de découvrir, comme c'est le cas dans cet épisode pour la première fois, le visage d'un nouveau-né. Tout se passe désormais plus en visio que de visu. Veuillez comprendre, plus via un écran et FaceTime qu'en face-to-face. Ainsi, Rebecca, la mère de Kate, isolée donc dans son chalet, ou Toby, le compagnon de Kate, dans sa voiture sur un parking à quelques mètres de la maternité, peuvent malgré tout assister à un heureux événement via la visio. Je vous en dis pas plus pour pas trop divulgâcher.
S'il vous plaît.
Et voilà comment la série arrive à mettre en scène la presque normalité de ces nouveaux types d'échanges par écran interposé que nous connaissons tous. Cousinade par Teams, apéro Zoom, déclaration d'amour par FaceTime ou Messenger. Mais là où la série va plus loin, c'est qu'elle remonte, comme à son habitude, le fil chronologique de l'histoire. Et la série nous raconte dans cet épisode comment, dans les années 70, un ingénieur informatique pense avoir trouvé le truc pour permettre à tout un chacun d'échanger et partager des photos, et bientôt sans doute des vidéos, via ce que l'on appelle encore le réseau mondial d'ordinateurs tous reliés conçu par l'armée américaine et qui va bien sûr se démocratiser avec Internet. This Is Us nous raconte comment un homme éloigné de ses parents, resté en Inde, invente en toute discrétion ce qui va permettre à d'autres de créer les nouveaux outils indispensables aujourd'hui. C'est l'histoire intime de cet ingénieur qui est raconté, un ingénieur qui a vraiment existé et qui échange avec son petit garçon et son épouse dont la famille, elle, est restée en Argentine. This Is Us réussit une fois de plus son pari, celui de relier son mélodrame familial et sa petite histoire populaire à un élément fondamental de la grande histoire en cours et fait écho à notre quotidien. Et en bonus, pour les sériephiles, l'épisode joue aussi sur un suspense inhérent au récit sériel. Cet ingénieur et sa femme pourraient-ils avoir un lien de parenté avec Miguel, le second mari de Rebecca, sur lequel nous ne savons pas grand-chose? Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, les scénaristes de This Is Us sont décidément brillants et visent, une fois de plus, même en visio, toujours juste.
Mais ils sont comme vous, brillants, absolument. Merci beaucoup Benoît Lagan. L'effet miroir, une chronique que vous pouvez réécouter en podcast ou en rediffusion dans quelques heures, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Vous êtes bien sur France Inter dans une heure en série avec ce soir la Dream Team avec Aen, Christine Haas et Benoît Lagan. Et nous allons parler justement de couple à trois maintenant avec Losing Alice, une série israélienne de 8 épisodes que vous pouvez voir sur Apple TV. Alice est une réalisatrice auparavant renommée mais désormais en panne d'inspiration. Tentant de concilier sa vie de famille et sa carrière en stand-by, elle fait un soir la rencontre de Sophie, une jeune femme solaire et débordante d'aisance qui s'avère en plus être l'autrice d'un scénario particulièrement sulfureux en cours de production et que devrait interpréter le mari d'Alice. Cette dernière ignorait tout d'ailleurs du projet de sa vedette de mari, lui-même en reconquête de son aura d'acteur, aura quelque peu malmenée par de récents choix mercantiles. Commence alors entre les trois un jeu pervers de manipulation dans lequel Sophie va vite s'avérer intrusive, inquiétante et toxique. Mais est-elle vraiment la seule ?
C'est une question pour vous, Alice. Qu'est-ce qui vous a convaincu de réaliser Chambre 209 ?
La seule raison valable pour faire un film, c'est un désir irrépressible.
Vous êtes Alice Guinard ? Je me demandais pourquoi on vous voyait plus.
Quand j'ai lu le script, j'ai senti que j'avais pas le choix. Faire ce film, c'était une question de survie. Et ne croyez pas les gens qui disent qu'on peut tout avoir sans prendre aucun risque. Parce que c'est pas vrai.
Vous estimez que ça en valait la peine ?
David Lynch et Alfred Hitchcock ne sont pas très loin dans ce face-à-face glaçant qui soigne autant son esthétique froide et sa mise en scène au scalpel que son scénario riche en volte-face et coups de théâtre surprenants. Une série que l'on doit à l'autrice, Sigal Avin, avec Ayelet Zirer, Lee Konofsky et Gal Toren. Pour la presse, c'est une réussite. Le Monde parle d'un l'un des objets sériels les plus excitants de ce début d'année. Et pour Télérama, c'est un thriller sur le fil en tension permanente. Moi, j'étais un petit peu déçu par la fin, mais à vous, bien sûr, de me donner votre avis, chère Christine.
Eh bien, cher Xavier, oui, c'est vrai que...
Oui, chère Christine.
On est dans une œuvre sur le désir. Les deux héroïnes, pour moi, incarnent la toute-puissance féminine. Il est question de rivalité, car une fois que la sauvagerie de Sophie a réveillé la spontanéité endormie d'Alice, se pose la question, jusqu'où Alice sera-t-elle prête à transgresser la morale pour retrouver sa célébrité et sa réputation d'artiste ? Alors, l'affrontement est d'abord verbal. Ce que je veux, c'est choquer, dit Sophie. La confrontation est aussi physique. On les voit qui participent, notamment à un cours de danse gaga, très sensuel et assez représentatif de ce qu'elle tente d'accomplir artistiquement. Et puis, l'emprise est aussi psychique. On a une construction en forme de poupée russe, un récit dans le récit, avec intrusion de rêves, de cauchemars, de fantasmes, de mensonges, de stories, de photos sur Instagram qui vont semer le doute. Et Alice devient ce mauvais lecteur dont parle l'écrivain Amos Oz, qui veut savoir quelle est la réalité derrière l'histoire et s'interroge, est-ce que l'art imite la vie ou est-ce le contraire ? Dans cette histoire d'obsession, donc s'approprier le film, pour Alice, c'est aussi prendre l'ascendant sur son mari, prendre le pouvoir, prendre une certaine revanche. Et en fait, son monde est un véritable casse-tête paranoïaque. Elle est guidée par son besoin de réveiller sa sexualité, de mettre en scène celle des autres. Elle est poussée, quelque part, jusqu'à l'autodestruction. Alors, on pense évidemment à Mulholland Drive, on pense à Black Swan. Et dans cette ambiance de conte lynchien, les personnages sont comme des pions sur un jeu d'échecs. Ils se déplacent d'une case à l'autre, entre réalité, fantasme et fiction, avec des allers-retours dans le temps, dans un climat ambigu, qui évoque évidemment, vous l'aviez dit, l'univers hitchcockien revendiqué, avec des situations de voyeurisme, un certain dérèglement du réel. Et Sophie, il faut bien le dire, n'a pas de difficulté à manipuler tous ces gens qui s'emmerdent prodigieusement dans leur quotidien. Et donc tous ces mouvements, pour moi, ça serait le seul bémol, manque un tout petit peu de motivation et d'analyse psychologique. C'est l'incarnation de la femme fatale des films noirs. On comprend que son charme, son magnétisme fascinent à peu près tout le monde, mais chaque épisode révèle un nouveau mensonge, une nouvelle vie brisée, une nouvelle transgression. On finit par se demander pourquoi il reste fasciné par cette fille complètement désinhibée physiquement, mais dont la personnalité reste quand même un petit peu superficielle.
Je suis assez d'accord avec vous, même si j'aime beaucoup l'ambiance, ce scope, ce travail sur le son qui déréalise la réalité, ce voisin étrange qui semble observer Alice depuis ses fenêtres, les rats, à un moment des travaux vont mettre... Mais c'est dommage parce que toutes ces pistes-là qui sont extrêmement prometteuses et qui ne sont pas que des gimmicks d'écriture, ce que ça aurait pu être évidemment, je trouve qu'ils ne sont pas tout à fait menés à terme et Christine a raison, c'est qu'il y a un moment, un peu de psychologie n'aurait pas été au détriment de la série. Ava, vous dont la sexualité n'est pas en sommeil.
Voilà, non mais moi j'ai marché.
Bien de ce côté-là. Je veux prendre des nouvelles de mes chroniqueuses.
Moi j'ai marché de A à Z. Cette série m'a beaucoup plu et ce que j'aime d'ailleurs c'est qu'elle n'est pas toujours aimable. Et ça c'est souvent le cas des séries israéliennes. On a ce truc qui grince, ce malaise, le glissement de registre et de tonalité dans une même scène ou dans une même séquence. Les personnages d'Alice et Sophie, tu l'as très bien dit, Christine, affichent l'une et l'autre ce petit sourire hein, en coin, qu'on les malicieux, qu'on les diabolique. Alors forcément, ça a tout de suite piqué ma curiosité.
Jacques n'est pas loin, évidemment.
Voilà, ce personnage d'Alice, moi, m'a fascinée. La femme qu'elle est, sa vie de famille, son travail. Donc, voilà, elle est réalisatrice, elle essaie d'écrire son nouveau film, mais il y a des travaux à côté de chez elle qui l'empêchent de trouver la paix et la concentration. Et puis, il y a cette rencontre, évidemment, avec Sophie, qui va reformuler presque littéralement le sens de la vie d'Alice. Et un peu comme dans le roman, justement, de Lewis Carroll, on va partir, glisser dans le terrier du lapin blanc, sauf qu'Alice n'est plus une adolescente ici, donc c'est d'autres fantasmes qui vont prendre corps. Donc voilà, on l'a dit, c'est une série labyrinthique, un thriller vénéneux à la tension érotique très aiguë. Moi, ça m'a fait penser évidemment au film de De Palma, aussi à Hitchcock, évidemment, avec cette maison qu'occupent Alice et son mari David, bardée de baies vitrées, des fenêtres sur cour. Voilà, vous l'avez dit, on pense aussi à travers cette maison moderne à Parasite de Bong Joon-ho et pour plein d'autres raisons.
C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est très juste.
Je m'arrête là pour les références, mais voilà, la série joue très habilement avec les codes du thriller, avec les écrans de téléphone, les vidéosurveillances, les séquences de parking, le jeu de reflets, les coups de théâtre. Donc voilà, l'intrigue principale, moi je trouve qu'elle s'étoffe en fait de plus en plus, et qu'épisode après épisode, ça devient de plus en plus sombre, ça devient de plus en plus vénéneux, sensuel, à l'image de ce cours de danse dont tu as parlé, où Sophie et Alice se laissent emporter par la transe. Et puis dans le deuxième épisode, on a Alice et son mari, donc qui est acteur, qui sont en voiture, ils sont en train de se disputer quand le pneu de la voiture crève, et là voilà, c'est le tournant, hein. Ce pneu que David n'arrive pas à changer, et ben c'est la roue de la fortune qui vient de se décrocher, et à partir de là, tout va déraper.
Joli, la roue de la fortune, formidable. Benoît.
Alors moi, je suis très partagé,
aussi,
en fait.
Question sexualité, tout va bien.
Tout va bien, tout va bien.
Vous ne reprochez pas après de m'intéresser plus à un bac à vous, quoi.
Mais parlons de psychologie plutôt que de sexualité. Non, parce qu'en fait, les séries israéliennes.
L'un n'empêche pas l'autre.
Les séries israéliennes sont souvent très fortes, justement, sur la psychologie. Et je trouve que c'est là où il en manque, effectivement, dans cette série. Mais en fait, ce qui est plus complexe que ça, en fait, moi, j'ai une théorie autour de cette série, parce que quand je suis sorti de la série, je suis sorti en me disant, je suis autant enthousiaste que dérangé, en fait, et divisé par cette série. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Est-ce que c'est pour me mettre dans la même situation qu'Alice et me perdre comme Alice? Si c'est le cas, alors c'est réussi. Sauf que le problème, c'est que c'est une série et qu'une série, ça fonctionne par épisode. Et que quand on arrive à la fin d'un épisode et qu'on est vraiment agacé par ce que nous raconte cette série, on a envie de lâcher et de ne pas continuer. Est-ce que je serais allé au bout de la série si j'avais eu à en parler avec vous ce soir? Pas certain. Donc, je trouve qu'il y a un bémol à cet endroit-là. Et tout mon regard sur la série est comme ça. J'aime, par exemple, l'étrangeté de la situation, le trouble que crée par exemple cette Sophie qui nous veut du bien à Alice. Mais en fait, je n'y crois pas, je me dis que c'est trop gros, que c'est pas possible qu'Alice se fasse berner comme ça, la rencontre dans le train, mais n'importe quoi. Donc chaque fois, je suis toujours en train de me dire, mais non, c'est pas possible. J'aime donc ce personnage insaisissable, mais à la fois, les faux-semblants, il y en a trop. J'aime le thriller érotique, et je trouve qu'à un moment donné, la série est trop voyeuriste et nous montre des choses qu'elle ne devrait pas nous montrer, par exemple. Bref, j'aime et j'aime pas, et je sais plus quoi
penser. Là, on est au sommet de l'esprit critique, quand même.
Mais non, mais je suis perdu comme Alice, et donc j'en reviens à ce que je disais au début. Si c'est le but de la créatrice de la série, alors tant mieux, parce que c'est réussi.
Mais je crois que vous avez dit un mot très juste, on est très dérangé au bon sens du terme, parce que même, effectivement, les choses concrètes semblent nous échapper. Il y a toujours un travail de distorsion comme ça, que je trouve assez fin, mais qui, pour moi, vire un tout petit peu au systématisme. Donc, nous avons parlé de Losing Alice, une série israélienne que vous pouvez voir sur Apple TV. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. Oh, Lose Your Head, London Grammar, avant-goût de Californian Soil, le prochain album du groupe britannique qui sortira le 9 avril. L'avant-goût est quand même déjà extrêmement prometteur. On y retrouve cette voix que vous venez d'entendre, qui tutoie les aigus avec une grâce infinie, un titre aérien évanescent, ensorceleur, un peu comme vous trois en fait finalement, ponctué cette fois de quelques belles rythmiques électro qui est le nouveau terrain de jeu assumé et revendiqué par le groupe.
France Inter. Une heure en série.
La semaine était déjà très riche, mais nous allons la conclure en beauté avec quelques conseils, quelques recommandations pour le plateau télé. Avant, vous commencez avec Now Apocalypse sur Canal+, la série d'un metteur en scène très sulfureux, Greg Araki.
Oh bah oui, du sexe et des ovnis, ça vous dit?
Et quelques monstres.
Ah oui, bah je vous préviens tout de suite, la série est interdite aux moins de 16 ans. Et si vous trouviez la chronique des Bridgerton, olé olé, ici on s'envoie en l'air comme on change de chemise et on est à LA, il fait très très chaud. On s'envoie en l'air à deux, à trois, à plein, entre hommes et femmes, devant sa webcam. L'imagination de Greg Araki, papa de la série, est très féconde. Araki, donc, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un cinéaste américain qui a toujours fait des films indépendants, queer et trash, sur l'adolescence, le passage à l'âge adulte, et la peur de la fin du monde, ou en tout cas d'un avenir qui ne serait pas aussi coloré qu'un arc-en-ciel. On peut citer Doom Generation, Nowhere, l'excellent Kaboom. Alors, Now Apocalypse, c'est un trip de 10 épisodes dans lesquels on suit deux copains qui vivent en coloc, Ulysse, gay, et Ford, hétéro. Araki raconte leur quotidien, leur boulot, leurs histoires de fesses et de cœur, et aussi les mystères qui enserrent leur existence. Il y a un côté thriller, c'est pop, c'est très très drôle. Beaumier Schoff, qui joue Ford, porte son prénom à merveille puisqu'il est beau comme un dieu et il fait grimper immédiatement la température dans votre salon. Tout le monde ici ressemble à une star de cinéma, dit son personnage de jeune scénariste un peu nunuche, et c'est exactement l'impression qu'on a en regardant cette série délirante où tout le monde est sublime, à l'instar de Roxane Mesquida, qu'on avait évidemment aussi vu dans Kaboom, et qui ici joue une scientifique libertine au principe formidable. Voilà, c'est Now Apocalypse, si vous avez envie d'étincelles, de culots, de paillettes, de créatures venues d'ailleurs.
Vous êtes au courant qu'on est en confinement?
Oui.
Qu'on est bloqué chez nous?
Eh ben, va falloir faire avec.
Merci
Now Apocalypse.
Merci beaucoup
c'est
pour la frustration.
Du troisième type et plus affinité, c'est ça?
Voilà. Okay.
Beaucoup plus affinité. Christine, vous nous parlez de This Way Up également sur Canal.
Oui, c'est vrai que la santé mentale est un sujet plutôt casse-gueule et il faut beaucoup de talent pour raconter avec humour et tendresse l'histoire d'une trentenaire dépressive qui cache son cafard derrière une bonne dose de dérision. Et Aisling Bea est une star du stand-up d'origine irlandaise qui s'est inspirée de son propre mal-être pour créer et interpréter cette célibataire abîmée qui tente de se reconstruire. Elle avoue d'ailleurs que, dans la vraie vie, elle avait décidé de se jeter sous un bus, mais ce jour-là, il était hors service. Le ton est donné dès la première scène, et lorsque sa sœur aînée vient la chercher dans la maison de repos où elle a atterri après une petite dépression nerveuse, elle fait remarquer qu'elle aurait bien aimé des Kit Kat dans sa chambre et possiblement un jacuzzi tel qu'il apparaît sur la brochure plutôt qu'une vieille mare dans le jardin. Bref, à travers un état des lieux désastreux de son quotidien, de ses relations avec les hommes, de son boulot, elle compose une héroïne vulnérable mais combative, portant sa gaieté comme un bouclier qui l'empêchera peut-être de sombrer à nouveau. Alors de dialogue irrévérencieux en scène burlesque, Aisling nous offre un autoportrait tout en finesse, mais comme elle est attentive à son environnement, il est aussi question d'immigration, de racisme et d'homosexualité. On pense beaucoup à Fleabag, car la série qui porte en elle l'esprit caustique de Phoebe Waller-Bridge nous épate sacrément. C'est rondement mené, 6 fois 25 minutes, et fort heureusement, tout est mis en place pour une deuxième saison.
Génial, ce qui ne sera malheureusement pas le cas de la série de Greg Araki. Merci les filles, bravo pour vos conseils, ils sont absolument formidables. Nous allons ressortir les mouchoirs que nous avons rangés depuis le premier débat de Cécile, puisque c'est hélas la fin d'une heure en série ce soir en direct depuis France Inter. Mille merci à vous, à Vakaen, à Christine Haas et Benoît Lagan d'y avoir participé.
Xavier.
Merci à vous toutes et à vous tous, bien sûr, de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé aujourd'hui. Ouais. On aimait tout. It's a Scene sur Canal+, Looting Alice sur Apple TV et Le Prix de la Paix sur Arte. La semaine prochaine, nous évoquerons Caïd sur Netflix et, alors, je parle sous l'autorité de Christine, commandant Bäckström, une série suédoise sur France 3, mais heureusement en VF. Demain soir, rendez-vous évidemment avec Jérôme Garcin pour Un masque et la plume consacré au cinéma, une heure en série, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, en rediffusion dans quelques heures, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet, vous nous envoyez vos courriers, bien sûr, et cette émission, comme chaque semaine, était réalisée par l'excellente Marianique Rimbaud, programmée par la merveilleuse Muriel Pérez, et préparée avec la formidable Amel Kaldi. Là, je n'ai plus d'épithète. Je vais en garder un aussi quand même pour le génial Céline Guéribi qui nous aidait ce soir à la technique.